Les frères Karamazov, livre 9, chapitre 5, troisième tribulation. Tout en parlant avec brusquerie, Mitya parut encore plus désireux de n'omettre aucun détail. Il raconta comment il avait escaladé la palissade, marché jusqu'à la fenêtre et tout ce qui s'était alors passé en lui. Avec précision et clarté, il exposa les sentiments qui l'agitaient quand il brûlait de savoir si Grushenka était ou non chez son père. Chose étrange, le procureur et le juge écoutaient avec une extrême réserve, l'air rébarbatif, ne posant que de rares questions. Mitya ne pouvait rien augurer de leur visage. « Ils sont irrités et offensés, » pensa-t-il. « Tant pis. » Lorsqu'il raconta qu'il avait fait à son père le signal annonçant l'arrivée de Grushenka, les magistrats n'accordèrent aucune attention au mot « signal », comme s'ils n'en comprenaient pas la portée dans la circonstance. Mitya remarqua ce détail. Arrivé au moment où, à la vue de son père penché hors de la fenêtre, il avait frémi de haine et sorti le pilon de sa poche, il s'arrêta subitement, comme à dessein. Il regardait le mur et sentait les regards de ses juges fixés sur lui. « Eh bien ?» dit Nicolas Parthenovitch. « Vous avez saisi votre arme et... que s'est-il passé ensuite ?»« Ensuite, j'ai tué. J'ai porté à mon père un coup de pilon qui lui a fendu le crâne. D'après vous, c'est ainsi, n'est-ce pas ?» Ses yeux étincelaient. Sa colère apaisée se rallumait dans toute sa violence. « D'après nous, mais d'après vous ?» Mitya baissa les yeux, fit une pause. « D'après moi, messieurs, d'après moi, voici ce qui est arrivé, » reprit-il doucement. « Est-ce ma mère qui implorait Dieu pour moi, un esprit céleste qui m'a baisé au front à ce moment ? Je ne sais, mais le diable a été vaincu. Je m'écartai de la fenêtre et courus à la palissade. » Mon père, qui m'aperçut alors, prit peur, poussa un cri et recula vivement, je me rappelle fort bien. J'avais déjà grimpé sur la barrière quand Grigori me saisit. Mitya leva enfin les yeux sur ses auditeurs qui le regardaient d'un air impassible. Un frémissement d'indignation le parcourut. « Messieurs, vous vous raillez de moi !»« D'où concluez-vous cela ?» demanda Nicolas Parthenovitch. « Vous ne croyez pas un mot de ce que je dis. Je comprends très bien que je suis arrivé au point capital. Le vieillard gît maintenant, la tête fracassée, et moi, après avoir tragiquement détruit ma volonté de le tuer, le pilon déjà en main, je m'enfuis de la fenêtre. Un sujet de poème à mettre en vers. On peut croire sur parole un tel gaillard. Vous êtes des farceurs, messieurs. » Il se tourna brusquement sur sa chaise qui craqua. « N'avez-vous pas remarqué, » dit le procureur, paraissant ignorer l'agitation de Mitya, « quand vous avez quitté la fenêtre, la porte qui donne accès au jardin, à l'autre bout de la façade, était-elle ouverte ?»« Non, elle n'était pas ouverte. »« Bien sûr. Elle était fermée, au contraire. Qui aurait pu l'ouvrir ?»« Bah, la porte. Attendez. » Il parut se raviser et tressaillir. « L'avez-vous trouvée ouverte ?»« Oui. »« Mais qui a pu l'ouvrir, si ce n'est pas vous ?»« La porte était ouverte. L'assassin de votre père a suivi ce chemin pour entrer et pour sortir, » dit le procureur en scandant les mots. « C'est très clair pour nous. L'assassinat a été commis, évidemment, dans la chambre et non à travers la fenêtre. Cela résulte de l'examen des lieux et de la position du corps. Il n'y a aucun doute à ce sujet. » Mitya était confondu. « Mais c'est impossible, messieurs » s'écria-t-il tout à fait dérouté. « Je ne suis pas entré. Je vous affirme que la porte est restée fermée durant tout le temps que j'étais au jardin, et lorsque je me suis enfui, je me tenais sous la fenêtre, et je n'ai vu mon père que de l'extérieur. Je me rappelle jusqu'à la dernière minute. Si même je ne me rappelais pas, j'en suis sûr, car les signaux n'étaient connus que de moi, de Smerdiakov et du défunt, et sans signaux, ils n'auraient ouvert à personne au monde. Quels signaux ? Demanda avec une ardente curiosité le procureur, dont la réserve disparut aussitôt. il interrogeait avec une sorte d'hésitation, pressentant un fait important, et tremblait que Mitya refusât de l'expliquer. « Ah, vous ne saviez pas ?» dit Mitya en clignant de l'œil avec un sourire ironique. « Et si je refusais de répondre ? Qui vous renseignerait ? Le défunt ? Smerdiakov et moi étions seuls à connaître le secret. Dieu aussi le sait, mais il ne vous le dira pas. Or, le fait est curieux, on peut échafauder là-dessus à plaisir. Consolez-vous, messieurs, je vous le révélerai, vos craintes sont vaines. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. L'accusé dépose contre lui-même. Oui, car je suis un chevalier d'honneur, mais pas vous. » Dans son impatience d'apprendre le fait nouveau, le procureur avalait ses pilules. Mitya expliqua en détail les signaux imaginés par Fiodor Pavlovitch pour Smerdiakov, le sens de chaque coup à la fenêtre. Il les reproduisit même sur la table. Nicolas Parthenovitch, lui ayant demandé s'il avait fait alors au vieillard le signal convenu pour l'arrivée de Grushenka, Mitya répondit affirmativement. « Maintenant, échafaudez là-dessus une hypothèse » trancha-t-il en se détournant avec dédain. « Ainsi, votre défunt père, le domestique Smerdiakov et vous connaissiez seuls ces signaux ?» insista le juge. « Oui, le domestique Smerdiakov et puis Dieu. Notez ceci, vous devrez vous-même recourir à Dieu. » On en prit note, bien entendu. Mais à ce moment, le procureur dit comme s'il lui venait une idée. « Dans ce cas, et puisque vous affirmez votre innocence, ne serait-ce pas Smerdiakov qui se fit ouvrir la porte par votre père en donnant le signal et ensuite l'assassinat ?» Mitya lui jeta un regard chargé d'ironie et de haine, le fixa si longtemps que le procureur battit des paupières. « Vous vouliez encore attraper le renard ? Vous lui avez pincé la queue. Vous pensiez que j'allais me raccrocher à ce que vous insinuez et m'écrier à pleine gorge ? Ah ouais, c'est Smerdiakov, voilà l'assassin. Avouez que vous l'avez pensé. Avouez-le. Alors je continuerai. » Le procureur n'avoua rien. Il attendit en silence. « Vous vous êtes trompé. Je n'accuserai pas Smerdiakov, » déclara Mitya. « Et vous ne le soupçonnez même pas ? Est-ce que vous le soupçonnez, vous ? Nous l'avons aussi soupçonné. » Mitya baissa les yeux. « Trêve de plaisanterie. Écoutez, dès le début, presque au moment où je suis sorti de derrière ce rideau, cette idée m'était déjà venue. C'est Smerdiakov ! Assis à cette table, alors que je criais mon innocence, la pensée de Smerdiakov me poursuivait. Maintenant, enfin, j'ai songé à lui. Mais l'espace d'une seconde, aussitôt je me suis dit « Non, ce n'est pas Smerdiakov. Ce crime n'est pas son œuvre, messieurs. » « Ne soupçonnez-vous pas alors quelque autre personnage ?» demanda avec précaution Nicolas Parthenovitch. « Je ne sais qui, Dieu ou Satan, mais pas Smerdiakov, » dit résolument Mitya. « Mais pourquoi affirmez-vous avec une telle insistance que ce n'est pas lui ?»« Par conviction ! Parce que Smerdiakov est une nature vile et lâche, ou plutôt le composé de toutes les lâchetés cheminant sur deux pieds. Il est né d'une poule. Quand il me parlait, il tremblait de frayeur, pensant que j'allais le tuer, alors je ne levais même pas la main. Il se jetait à mes pieds en pleurant, il baisait mes bottes en me suppliant de ne pas lui faire peur. « Entendez-vous ? De ne pas lui faire peur. Et je lui ai même offert des cadeaux. C'est une poule épileptique, un esprit faible. Un gamin de 8 ans le rosserait. Non, ce n'est pas Smerdiakov. Il n'aime pas l'argent, il refusait mes cadeaux. D'ailleurs, pourquoi aurait-il tué le vieillard ? Il est peut-être son fils naturel, savez-vous cela ? Nous connaissons cette légende. « Mais vous êtes le fils de Fiodor Pavlovitch. Pourtant, vous avez dit à tout le monde que vous vouliez le tuer. »« Encore une pierre dans mon jardin. C'est abominable, mais je n'ai pas peur. Messieurs, vous devriez avoir honte de me dire cela en face, car c'est moi qui vous en ai parlé. Non seulement j'ai voulu tuer, mais je le pouvais. Je me suis même accusé d'avoir failli tuer. Mais mon ange gardien m'a sauvé du crime. Voilà ce que vous ne pouvez pas comprendre. C'est ignoble de votre part. Ignoble. Car je n'ai pas tué. Pas tué. Vous entendez, procureur? Pas tué. Il suffoquait. Durant l'interrogatoire, il n'avait jamais été dans une pareille agitation. « Et que vous a dit Smerdiakov ? » conclut-il après une pause. « Puis-je le savoir ?»« Vous pouvez nous questionner sur tout ce qui concerne les faits, » répondit froidement le procureur. « Et je vous répète que nous sommes tenus de répondre à vos questions. Nous avons trouvé le domestique Smerdiakov dans son lit, sans connaissance, en proie à une violente crise d'épilepsie, la 10e peut-être depuis la veille. Le médecin qui nous accompagnait a déclaré, après avoir examiné le malade, qu'il ne passerait peut-être pas la nuit. « Alors, c'est le diable qui a tué mon père !» laissa échapper Mitya, comme si son dernier doute disparaissait. « Nous reviendrons là-dessus, » conclut Nicolas Parthenovitch. « Veuillez continuer votre déposition. » Mitya demanda à se reposer, ce qui lui fut accordé avec courtoisie. Ensuite, il reprit son récit, mais ce fut avec une peine visible. Il était là, froissé, ébranlé moralement. De plus, le procureur, comme à dessein, l'irritait à chaque instant en s'arrêtant à des minuties. Mitya finissait de décrire comment, à califourchon sur la palissade, il avait frappé d'un coup de pilon à la tête de Grigori, cramponné à sa jambe gauche, puis sauté auprès du blessé, lorsque le procureur le pria d'expliquer avec plus de détails comment il se tenait sur la palissade. Mitya s'étonna. « Eh bien, j'étais assis comme ça, à cheval, une jambe de chaque côté. »« Et le pilon ? Je l'avais à la main. » « Il n'était pas dans votre poche? Vous vous rappelez ce détail? Vous avez dû frapper de haut. »« C'est probable. Pourquoi cette remarque ?»« Si vous vous placiez sur votre chaise, comme alors sur la palissade, pour bien nous montrer comment et de quel côté vous avez frappé. »«
Est-ce que vous vous moquez de moi ?»
demanda Mitya en toisant l'interrogateur. Mais celui-ci ne broncha pas. Mitya se mit à cheval sur la chaise et leva le bras. « Voilà comment j'ai frappé. Comment j'ai tué. Êtes-vous satisfait ?»« Je vous remercie. Ne voulez-vous pas nous expliquer maintenant pourquoi vous avez de nouveau sauté dans le jardin? Dans quelle intention ?»«
Eh diable, pour voir le blessé. Je ne sais pas pourquoi. »«
Dans un trouble pareil et en train de fuir ?»«
Oui, dans un trouble pareil et en train de fuir. »«
Vous vouliez lui venir en aide ?»
« Oui, peut-être, je ne me rappelle pas. »«
Vous ne vous rendiez pas compte de vos actes ?»«
Oh, je m'en rendais bien compte, je me rappelle les moindres détails. J'ai sauté pour voir et j'ai essuyé son sang avec mon mouchoir. »«
Nous avons vu votre mouchoir. Vous espériez ramener le blessé à la vie ?»«
Je ne sais pas, je voulais simplement m'assurer s'il vivait encore. »«
Ah, vous vouliez vous assurer. Eh bien ?»
« Je ne suis pas médecin, je ne puis en juger. Je m'enfuis en pensant l'avoir tué. »«
Très bien, je vous remercie. C'est tout ce qu'il me fallait. Veuillez continuer. » Hélas, Mitya n'eut pas l'idée de raconter. Il s'en souvenait pourtant qu'il avait sauté par pitié et prononcé des paroles de compassion devant sa victime.
« Le vieux a son compte. Tant pis, qu'il y reste. »
Le procureur en conclut que l'accusé avait sauté en un tel moment et dans un trouble pareil, seulement pour s'assurer si l'unique témoin de son crime vivait encore. Quelle devait donc être l'énergie, la résolution, le sang-froid de cet homme, etc. Le procureur était satisfait. « J'ai exaspéré cet homme irritable avec des minuties et il s'est trahi. » Mitya poursuivit péniblement. Cette fois, ce fut Nicolas Parthenovitch qui l'interrompit. Comment avez-vous pu aller chez la domestique Fedosia Markovna avec les mains et le visage ensanglantés?
Mais je ne m'en doutais pas.
C'est vraisemblable, cela arrive, dit le procureur en échangeant un coup d'œil avec Nicolas Parthénovitch.
Vous avez raison, procureur,
approuva Mitya. Ensuite, il raconta sa décision de s'écarter, de laisser le chemin libre aux amants. Mais il ne put se résoudre, comme tout à l'heure, à étaler ses sentiments, parler de la reine de son cœur. Cela lui répugnait devant ces êtres froids. Aussi, aux questions réitérées, il répondit laconiquement. « Eh bien, j'avais résolu de me tuer. À quoi bon vivre ? L'ancien amant de Grushenka, son séducteur, venait, après 5 ans, réparer sa faute en l'épousant. Je compris que tout était fini pour moi. Derrière moi, la honte. Et puis ce sang, le sang de Grigori. Pourquoi vivre ? J'allais dégager mes pistolets afin de me loger une balle dans la tête, à l'aube. Et cette nuit, une fête a tout cassé.
Vous l'avez dit. Que diable, messieurs, finissons-en plus vite. J'étais décidé à me tuer, là-bas, au bout du village, à 5 heures du matin. J'ai même dans ma poche un billet écrit chez Père Cotine en chargeant mon pistolet. Le voici. Lisez-le. Ce n'est pas pour vous que je raconte. »
ajouta-t-il dédaigneux. Il jeta sur la table le billet que les juges lurent avec curiosité et, comme de juste, joignirent au dossier.
« Et vous n'avez pas pensé à vous laver les mains, même avant d'aller chez Monsieur Percotine. Vous ne craignez donc pas les soupçons ?»«
Quels soupçons ? Je me souciais peu des soupçons. Je me serais suicidé à 5 heures, avant qu'on ait le temps d'agir. Sans la mort de mon père, vous ne sauriez rien, et vous ne seriez pas venu ici. Oh, c'est l'œuvre du diable. C'est lui qui a tué mon père, qui vous a si promptement renseigné. Comment avez-vous pu arriver si vite ? C'est fantastique.
Monsieur Percotine nous a informé qu'en entrant chez lui, vous teniez dans vos mains ensanglantées, une grosse somme, une liasse de billets de 100 roubles. Son domestique aussi l'a vu.
C'est vrai, messieurs, je m'en souviens.
Une petite question, dit avec une grande douceur Nicolas Parthénovitch. Pourriez-vous nous indiquer où vous avez pris tant d'argent, alors qu'il est démontré que vous n'avez pas eu le temps d'aller chez vous ?
Le procureur fronça les sourcils à cette question ainsi posée de front, mais n'interrompit pas Nicolas Parthénovitch.
« Non, je ne suis pas entré chez moi, » dit Mitya tranquillement, mais les yeux baissés.
« Permettez-moi, dans ce cas, de répéter ma question, » insinua le juge. Où avez-vous trouvé tout à coup une pareille somme, alors que, d'après vos propres aveux, à 5 heures, le même jour ?
J'avais besoin de 10 roubles. J'ai engagé mes pistolets chez Père Cotine. Puis je suis allé chez Madame Koklakov pour lui emprunter 3 000 roubles, qu'elle ne m'a pas donnés, etc. Eh oui, messieurs, j'étais sans ressources. Et tout à coup, me voilà avec des billets de 1 000. Savez-vous, messieurs, vous avez peur tous les deux maintenant. Qu'arrivera-t-il s'il ne nous indique pas la provenance de cet argent ? Eh bien, je ne vous le dirai pas, messieurs. Vous avez deviné juste, vous ne le saurez pas. »
dit Mitya en martelant la dernière phrase.
« Comprenez, monsieur Karamazov, qu'il est essentiel pour nous de le savoir, »
dit doucement Nicolas Parthénovitch.
« Je le comprends, mais je ne le dirai pas. »
Le procureur, à son tour, rappela que l'inculpé pouvait ne pas répondre aux questions s'il le jugeait préférable, mais que, vu le tort qu'il se faisait par son silence, vu surtout l'importance des questions...
« Et ainsi de suite, messieurs, et ainsi de suite. J'en ai assez. J'ai déjà entendu cette litanie. Je comprends la gravité de l'affaire. C'est là le point capital. Pourtant, je ne parlerai pas. »
« Qu'est-ce que cela peut nous faire ? C'est à vous que vous nuisez. » insinua nerveusement Nicolas Parthénovitch.
« Trêve de plaisanterie, messieurs. J'ai pressenti dès le début que nous nous heurterions sur ce point. Mais alors ? Quand j'ai commencé à déposer, tout était pour moi trouble et flottant. J'ai même eu la simplicité de vous proposer une confiance mutuelle. Maintenant, je vois que cette confiance était impossible, puisque nous devions arriver à cette barrière maudite. Et nous y sommes. D'ailleurs, je ne vous reproche rien. Je comprends bien que vous ne pouvez pas me croire sur parole. »
Mitya se tut, l'air sombre.
« Ne pourriez-vous pas, sans renoncer à votre résolution de taire l'essentiel, nous renseigner sur ce point? Quels sont les motifs assez puissants pour vous contraindre au silence dans un moment si critique ?»
Mitya sourit tristement.
« Je suis meilleur que vous ne le pensez, messieurs. Je vous dirai ces motifs, bien que vous ne le méritiez pas. Je me tais, parce qu'il y a pour moi un sujet de honte. La réponse à la question sur la provenance de l'argent implique une honte pire que si j'avais assassiné mon père pour le voler. Voilà pourquoi je me tais.
Eh quoi, messieurs, vous voulez noter cela ?
Oui, nous allons le noter,
bredouilla Nicolas Parthénovitch.
Vous ne devriez pas mentionner ce qui concerne la honte. Si je vous en ai parlé, alors que je pouvais me taire, c'est uniquement par complaisance.
Eh bien, écrivez, écrivez ce que vous voulez,
conclut-il d'un air dégoûté. Je ne vous crains pas et je garde ma fierté devant vous.
Ne nous expliquerez-vous pas de quelle nature est cette honte ?
Demanda timidement Nicolas Parthénovitch.
Le procureur fronça les sourcils.
Ni, c'est fini. N'insistez pas, inutile de s'avilir. Je me suis déjà avili à votre contact. Vous ne méritez pas que je parle, ni vous ni personne. Assez, messieurs, je m'arrête.
C'était catégorique. Nicolas Parthénovitch n'insista plus, mais comprit, au regard d'Hippolyte Kirillovitch, que celui-ci ne désespérait pas encore.
Ne pouvez-vous pas dire au moins la somme que vous aviez en arrivant chez M. Percotine ?
Non, je ne peux pas.
Vous avez parlé à M. Percotine de 3 000 roubles, soi-disant prêtés par Mme Koklakov.
C'est possible. En voilà assez, messieurs. Je ne dirai pas la somme.
Alors, veuillez nous dire comment vous êtes venu à Maucroyer et tout ce que vous avez fait.
Oh, vous n'avez qu'à interroger les gens qui sont ici. D'ailleurs, je vais vous le raconter.
Nous ne reproduirons pas son récit, fait rapidement et avec sécheresse. Il passa sous silence l'ivresse de son amour, tout en expliquant comment il avait renoncé à se suicider par suite de faits nouveaux. Il narrait sans donner les motifs, sans entrer dans les détails. Les magistrats lui posèrent d'ailleurs peu de questions. Cela ne les intéressait que médiocrement.
Nous reviendrons là-dessus lors des dépositions des témoins qui auront lieu, bien entendu, en votre présence,
déclara Nicolas Parthénovitch en terminant l'interrogatoire. Pour l'instant, veuillez déposer sur la table tout ce que vous avez sur vous, surtout votre argent.
L'argent, messieurs ?
À vos ordres, je comprends que c'est nécessaire. Je m'étonne que vous n'y ayez pas songé plus tôt.
Le voici, mon argent. Comptez. « Prenez, tout y est, je crois. »
Il vida ses poches, y compris la menue monnaie, tira 2 pièces de 10 copecks de son gousset. On fit le compte, il y avait 836 roubles et 40 copecks.
« C'est tout ?»
demanda le juge.
« Tout !»«
D'après votre déposition, vous avez dépensé 300 roubles chez Plotnikov, donné 10 roubles à Percotine, 20 au voiturier. » Vous en avez perdu 200 aux cartes, ensuite.
Nicolas Parthénovitch refit le compte, aidé de Mitya. On y comprit jusqu'au copec.
Avec ces 800, vous deviez avoir par conséquent dans les 1 500 roubles.
Tout juste.
Tout le monde affirme que vous aviez beaucoup plus.
Libre à eux.
Vous aussi, d'ailleurs.
Moi aussi.
Nous vérifierons tout cela par les dépositions d'autres témoins. Soyez sans inquiétude au sujet de votre argent. Il sera déposé en lieu sûr et mis à votre disposition, à l'issue de l'affaire, s'il est démontré que vous y avez droit.
Maintenant, Nicolas Parthénovitch se leva et déclara à Mitya qu'il était tenu et obligé
d'examiner minutieusement ses habits et le reste. « Soit, messieurs, je retournerai mes poches, si vous voulez. » Et il se mit en devoir de le faire. « Il faut même ôter vos habits. »«
Comment ? Me déshabiller ? Que diable ! Ne pouvez-vous pas me fouiller comme ça ?»«
Impossible, Dmitri Fiodorovitch. Il faut ôter vos habits. »«
Comme vous voudrez, » consentit Mitya d'un air morne. « Seulement, pas ici. Je vous en prie, derrière le rideau.
Qui procédera à l'examen ?»«
Certainement, derrière le rideau. »
approuva d'un signe de tête Nicolas Parthenovitch, dont le petit visage respirait la gravité. Chapitre 6. Le procureur confond Mitya. Il se passa alors une scène à laquelle Mitya ne s'attendait guère. Il n'aurait jamais supposé, 10 minutes auparavant, qu'on oserait le traiter ainsi, lui, Mitya Karamazov. Surtout, il se sentait humilié, en butte à l'arrogance et au dédain. Ça lui était égal d'ôter sa redingote, mais on le pria de se déshabiller entièrement. Ou plutôt, on le lui ordonna. Il s'en rendait bien compte. Il se soumit, sans murmure, par fierté dédaigneuse. Outre les juges, quelques manants le suivirent derrière le rideau. « Sans doute pour prêter main-forte, » songea Mitya. « Peut-être encore dans quelque autre intention. »«
Faut-il ôter aussi ma chemise ? » demanda-t-il brusquement.
Mais Nicolas Parthenovitch ne lui répondit pas. Le procureur et lui étaient absorbés par l'examen de la redingote, du pantalon, du gilet et de la casquette, qui paraissaient les intéresser fort.
« Quel sans-gêne ! Il n'observe même pas la politesse requise.
« Je vous demande pour la seconde fois si je dois ôter ma chemise, oui ou non ?» dit Mitya avec irritation.
« Ne vous inquiétez pas, nous vous préviendrons, »
répondit Nicolas Parthenovitch d'un ton qui parut autoritaire à Mitya. Le procureur et le juge s'entretenaient à mi-voix. La redingote portait, surtout au pan gauche, d'énormes taches de sang coagulé, ainsi que le pantalon. De plus, Nicolas Parthenovitch tâta, en présence des témoins instrumentaires, le col, les parements, les coutures, cherchant s'il n'y avait pas d'argent caché. On donna à entendre à Mitya qu'il était bien capable d'avoir cousu de l'argent dans ses vêtements.
« Il me traite en voleur et non en officier !» grommela-t-il à part lui.
Ils échangeaient leurs impressions en sa présence avec une franchise singulière. C'est ainsi que le greffier, qui se trouvait aussi derrière le rideau et faisait l'empressé, attira l'attention de Nicolas Parthenovitch sur la casquette qu'on tâtait également.
« Rappelez-vous le scribe Gridenka ? Il était allé, en été, toucher les appointements pour toute la chancellerie et prétendit à son retour avoir perdu l'argent en état d'ivresse. Où le retrouva-t-on ? Dans le liseré de sa casquette, où les billets de 100 roubles étaient enroulés et cousus. »
Le juge et le procureur se rappelaient parfaitement ce fait. Aussi mit-on de côté la casquette de Mitya pour être soumise, ainsi que les vêtements, à un examen approfondi.
« Permettez !» s'écria soudain Nicolas Parthenovitch, en apercevant le poignet de la manche droite de la chemise de Mitya,
retroussée et tachée de sang.
« Permettez, c'est du sang ?»«
Oui. »«
Quel sang ? Et pourquoi votre manche est-elle retroussée ?»
Mitya expliqua qu'il s'était taché en s'occupant de Grigori et qu'il avait retroussé la manche chez Percotine en se lavant les mains.
« Il faudra aussi ôter votre chemise. C'est très important pour les pièces à conviction. »
Mitya rougit et se fâcha.
« Alors, je vais rester tout nu ?»«
Ne vous inquiétez pas, nous arrangerons cela. Ayez l'obligeance d'ôter aussi vos chaussettes. »«
Vous ne plaisantez pas ? C'est vraiment indispensable ?»«
Nous ne sommes pas en train de plaisanter, » répliqua sévèrement Nicolas Parthenovitch.
« Eh bien, s'il le faut, je... »
murmura Mitya, qui, s'asseyant sur le lit, se mit à retirer ses chaussettes. Il était très gêné, et, chose étrange, se sentait comme coupable, lui, nu, devant ces gens habillés, trouvant presque qu'ils avaient maintenant le droit de le mépriser, comme inférieur. La nudité en soi n'a rien de choquant, la honte naît du contraste, songeait-il. On dirait un rêve. J'ai parfois éprouvé en songe des sensations de ce genre. Il lui était pénible d'ôter ses chaussettes, assez malpropres, ainsi que son linge, et maintenant tout le monde l'avait vu. Ses pieds surtout lui déplaisaient. Il avait toujours trouvé ses orteils difformes, particulièrement celui du pied droit, plat, l'ongle recourbé, et tous le voyaient. Le sentiment de sa honte le rendit plus grossier. Il ôta sa chemise avec rage. « Ne voulez-vous pas chercher ailleurs si vous n'avez pas honte ?»«
Non, c'est inutile pour le moment. »«
Alors, je dois rester comme ça, nu ?»«
Oui, c'est nécessaire. Veuillez vous asseoir en attendant. Vous pouvez vous envelopper dans une couverture du lit, et moi, je m'occuperai de ça. »
Les effets ayant été montrés aux témoins instrumentaires et le procès-verbal de leur examen rédigé, le juge et le procureur sortirent. On emporta les vêtements. Mitya demeura en compagnie des manants qui ne le quittaient pas des yeux. Il avait froid et s'enveloppa de la couverture, trop courte pour couvrir ses pieds nus. Nicolas Parthenovitch se fit longtemps attendre.
« Il me prend pour un gamin !»
murmura Mitya en grinçant des dents.
« Cette ganache de procureur est sortie aussi, par mépris sans doute. Ça le dégoûtait de me voir nu. »
Mitya s'imaginait qu'on lui rendrait ses habits après l'examen. Quelle fut son indignation lorsque Nicolas Parthenovitch reparut avec un autre costume qu'un croquant portait derrière lui.
« Voici des vêtements, » dit-il d'un air dégagé, visiblement satisfait de sa trouvaille.
« C'est M. Kalganov qui vous les prête, ainsi qu'une chemise propre. Par bonheur, il en avait de rechange. Vous pouvez garder vos chaussettes. »«
Je ne veux pas des habits des autres !» s'écria Mitya exaspéré.
« Rendez-moi les miens !»«
Impossible !»«
Donnez-moi les miens ! Au diable Kalganov et ses habits !»
On eut de la peine à lui faire entendre raison. On lui expliqua tant bien que mal que ses habits tachés de sang devaient figurer parmi les pièces à conviction. Nous n'avons même pas le droit de vous les laisser, vu la tournure que peut prendre l'affaire. Mitya finit par le comprendre, se tut, s'habilla à la hâte. Il fit seulement remarquer que le costume qu'on lui prêtait était plus riche que le sien et qu'il ne voudrait pas en profiter. De plus, ridiculement étroit. Dois-je être affublé comme un bouffon pour vous divertir ? On lui rétorqua qu'il exagérait, que le pantalon seul était un peu long, mais la redingote le gênait aux épaules.
« Zut, c'est difficile à boutonner !» grommela de nouveau Mitya.
« Ayez l'obligeance de dire à M. Kalganov que ce n'est pas moi qui ai demandé ce costume et qu'on m'a déguisé en bouffon. »
Il le comprend fort bien et regrette. C'est-à-dire, pas son costume, mais cet incident,
marmotta Nicolas Parthenovitch.
Je m'en moque de son regret. Eh bien, où aller maintenant? Faut-il rester ici?
On le pria de repasser de l'autre côté. Mitya sortit, l'air morose, s'efforçant de ne regarder personne. Dans ce costume étranger, il se sentait humilié, même aux yeux des manants et de Trifon Borisitch, dont la figure apparut à la porte.
« Il vient voir mon accoutrement !» songea Mitya.
Il se rassit à la même place, comme sous l'impression d'un cauchemar. Il lui semblait n'être pas dans son état normal.
« Maintenant, allez-vous me faire fustiger? Il ne vous reste plus que ça »
dit-il en s'adressant au procureur. Il évitait de se tourner vers Nicolas Parthenovitch, dédaignant de lui adresser la parole.
« Il a examiné trop minutieusement mes chaussettes. Il les a même fait retourner, le monstre, pour que tout le monde voie comme elles sont sales. »
« Il faut maintenant entendre les témoins, » proféra le juge, comme en réponse à la question de Mitya.
« Oui, dit le procureur d'un air absorbé. Dmitri Fiodorovitch, nous avons fait notre possible en votre faveur, poursuivit le juge. Mais comme vous avez refusé catégoriquement de nous expliquer la provenance de la somme trouvée sur vous, nous sommes maintenant...
En quoi est votre bague ?
Interrompit Mitya comme sortant d'une rêverie et désignant une des bagues qui ornait la main de Nicolas Parthenovitch.
Ma bague ?
Oui, celle-ci, au majeur, dont la pierre est veinée, insista Mitya comme un enfant entêté.
C'est un topaze fumé, dit Nicolas Parthenovitch en souriant.
Voulez-vous l'examiner ? Je l'ôterai.
Non, non, gardez-la !
S'écria rageusement Mitya, se ravisant et furieux contre lui-même.
« Ne l'ôtez pas, c'est inutile. Oh, diable ! Messieurs, vous m'avez avili. Croyez-vous que je le dissimulerais si j'avais tué mon père, que je recourrais à la ruse et au mensonge ? Non, ce n'est pas dans mon caractère, et si j'étais coupable, je vous jure que je n'aurais pas attendu votre arrivée et le lever du soleil, comme j'en avais d'abord l'intention. Je me serais suicidé avant l'aurore. » Je le sens bien maintenant. En 20 ans, j'aurais moins appris que durant cette nuit maudite. Et serais-je comme ça, assis auprès de vous? Parlerais-je de la sorte, avec les mêmes gestes, les mêmes regards, si j'étais vraiment un parricide? Alors que le meurtre accidentel de Grigory m'a tourmenté toute la nuit. Non par crainte, non par la seule crainte du châtiment. Oh, honte! Et vous voulez qu'à des farceurs tels que vous, qui ne voyez rien et ne croyez rien, qui êtes aveugle comme des taupes, je dévoile une nouvelle bassesse, une honte nouvelle, fût-ce pour me disculper. J'aime mieux aller au bagne. Celui qui a ouvert la porte pour entrer chez mon père, c'est lui l'assassin et le voleur. Qui est-ce? Je me perds en conjecture. Mais ce n'est pas Dmitri Karamazov, sachez-le. Voilà tout ce que je peux vous dire. Assez, n'insistez pas. Envoyez-moi au bagne ou à l'échafaud, mais ne me tourmentez pas davantage. Je me tais. Appelez vos témoins. »
Le procureur, qui avait observé Mitya pendant qu'il débitait son monologue, lui dit soudain, du ton le plus calme et comme s'il s'agissait de choses toutes naturelles. « À propos de cette porte ouverte dont vous venez de parler, nous avons reçu une déposition très importante du vieux Grigory Vassiliev. Il affirme positivement que lorsqu'il se décida, en entendant du bruit, à pénétrer dans le jardin par la petite porte restée ouverte, il aperçut à gauche la porte de la maison grande ouverte, ainsi que la fenêtre, alors que vous assuriez que la dite porte resta fermée tout le temps que vous étiez au jardin. À ce moment, il ne vous avait pas encore vu dans l'obscurité quand vous vous enfuyiez, suivant votre récit, de la fenêtre où vous aviez regardé votre père. Je ne vous cache pas que Vassiliev en conclut formellement et déclare que vous avez dû vous sauver par cette porte, bien qu'il ne vous ait pas vu en sortir. Il vous a aperçu à une certaine distance dans le jardin, alors que vous couriez du côté de la palissade. Mitya s'est élevé.
« C'est un impudent mensonge ! Il n'a pas pu voir la porte ouverte, car elle était fermée. Il ment !»
Je me crois obligé de vous répéter que sa déposition est catégorique et qu'il y persiste. Nous l'avons interrogé à plusieurs reprises.
C'est précisément moi qui l'ai interrogé, confirma Nicolas Parthenovitch.
C'est faux, c'est faux, c'est une calomnie ou l'hallucination d'un fou. Il lui aura semblé voir cela dans le délire causé par sa blessure.
Mais il avait remarqué la porte ouverte avant d'être blessé, lorsqu'il venait d'entrer au jardin.
« Ce n'est pas vrai, ça ne se peut pas. Il me calomnie par méchanceté, il n'a pas pu voir. Je n'ai pas passé par cette porte !»
dit Mitya haletant. Le procureur se tourna vers Nicolas Parthenovitch et lui dit « Montrez donc. »
« Connaissez-vous cet objet ?» dit le juge en posant sur la table une grande enveloppe qui portait encore 3 cachets. Elle était vide et déchirée sur un côté.
Mitya écarquilla les yeux.
« C'est l'enveloppe de mon père, » murmura-t-il. « Celle qui renfermait les 3 000 roubles. si la suscription correspond. Permettez. À ma poulette, c'est cela. 3 000. Voyez-vous, 3 000.
Assurément, nous le voyons, mais nous n'avons pas trouvé l'argent. L'enveloppe était à terre, près du lit, derrière le paravent.
Mitya resta quelques secondes comme abasourdi.
« Messieurs, c'est Smerdiakov !»
s'écria-t-il soudain de toutes ses forces.
« C'est lui qui a tué, c'est lui qui a volé. Lui seul savait où le vieillard cachait cette enveloppe. C'est lui, sans aucun doute. »
« Mais vous saviez aussi que cette enveloppe était cachée sous l'oreiller ?»«
Jamais de la vie. C'est la première fois que je la vois. J'en avais seulement entendu parler par Smerdiakov. Lui seul connaissait la cachette du vieillard. Moi, je l'ignorais. »«
Pourtant, vous avez déposé tout à l'heure que l'enveloppe se trouvait sous l'oreiller du défunt. »«
Sous l'oreiller. Donc vous saviez où elle était. »«
Nous l'avons notée. » confirma Nicolas Parthenovitch.
C'est absurde, je l'ignorais totalement. D'ailleurs, ce n'était peut-être pas sous l'oreiller. J'ai dit ça sans réfléchir. Que dit Smerdiakov? L'avez-vous interrogé à ce sujet? Que dit-il? C'est là le principal.
Moi, j'ai blagué exprès. J'ai dit sans y penser que c'était sous l'oreiller. Et maintenant vous savez bien qu'on laisse échapper des inexactitudes.
Mais Smerdiakov seul le savait, et personne d'autre. Il ne m'a pas révélé la cachette. Mais c'est lui, incontestablement, c'est lui l'assassin. Maintenant, c'est pour moi clair comme le jour.
Clama Mitya avec une exaltation croissante.
Dépêchez-vous de l'arrêter. Il a tué pendant que je m'enfuyais, et que Grigori gisait sans connaissance, c'est évident. Il a fait le signal, et mon père lui a ouvert, car lui seul connaissait les signaux. Et sans signal, mon père n'aurait pas ouvert.
Vous oubliez de nouveau, remarqua le procureur avec le même calme, l'air déjà triomphant, qu'il n'y avait pas besoin de faire de signal si la porte était déjà ouverte lorsque vous vous trouviez encore dans le jardin.
La porte ? La porte ?
Murmura Mitya en fixant le procureur. Il se laissa retomber sur sa chaise. Il y eut un silence.
« Oui, la porte. C'est un fantôme. Dieu est contre moi !»
s'exclama-t-il, les yeux hagards. « Vous voyez ?» dit gravement le procureur. « Jugez vous-même, Dmitri Fiodorovitch. D'un côté, cette déposition accablante pour vous, la porte ouverte par où vous êtes sorti. De l'autre, votre silence incompréhensible, obstiné, relativement à la provenance de votre argent. » Alors que 3 heures auparavant, vous aviez engagé vos pistolets pour 10 roubles. Dans ces conditions, jugez vous-même à quelle conviction nous devons nous arrêter. Ne dites pas que nous sommes de froids et cyniques railleurs, incapables de comprendre les nobles élans de votre âme. Mettez-vous à notre place. » Mitya éprouvait une émotion indescriptible. Il pâlit.
« C'est bien ! » s'écria-t-il tout à coup. « Je vais vous révéler mon secret, vous dire où j'ai pris l'argent. Je dévoilerai ma honte pour n'accuser ensuite ni vous, ni moi. »
« Et croyez, Dmitri Fiodorovitch, dit avec un joyeux empressement Nicolas Parthenovitch, qu'une confession sincère et complète de votre part, en cet instant, peut beaucoup améliorer votre situation par la suite, et même... » Mais le procureur le poussa légèrement du pied sous la table et il s'arrêta. D'ailleurs, Mitya n'écoutait pas.